Un journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'avenir s'assombrit pour le Premier ministre israélien, soupçonné de corruption dans différentes affaires. Benjamin Netanyahou est mis en examen. Nous irons à Jérusalem. À Hong Kong, les manifestants retranchés dans l'université polytechnique sont de moins en moins nombreux. Ceux qui n'ont pas été arrêtés se cachent. Reportage de notre envoyé spécial Dominique André. La CFDT cheminots et plusieurs syndicats d'EDF se rallient à la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, presse le gouvernement de dévoiler ses intentions. Nous l'entendrons. Et puis Édouard Philippe au congrès des maires de France. L'intervention du Premier ministre a-t-elle été plus appréciée que celle du chef de l'État mardi? Réponse avec Laura Dulieu. C'est une période sombre et âpre dans les annales de l'État d'Israël, déclare le président israélien. Après l'échec de Benjamin Netanyahou, puis celui de son adversaire Benny Gantz à former une nouvelle coalition gouvernementale, le président Rivlin a appelé les parlementaires à désigner un nouveau candidat au poste de Premier ministre. Il dispose pour cela de 21 jours et s'il ne s'accorde pas, les Israéliens devront retourner aux urnes une nouvelle fois. Dans ce contexte politique déjà très tendu, donc, on vient d'apprendre la décision du procureur général d'Israël. Il aurait décidé de mettre en examen l'actuel Premier ministre. Frédéric Mettezo, vous êtes en direct de Jérusalem, vous nous le confirmez ?
Oui Aurélie, selon un communiqué du ministère israélien de la Justice, le Premier ministre israélien est inculpé pour corruption dans le dossier numéroté 4000. Il aurait assoupli la réglementation en faveur de la compagnie de télécom Bezeq, c'est l'équivalent d'Orange ici, en échange d'articles favorables sur un site web d'information propriété de Bezeq. Il risque là jusqu'à 10 ans de prison. Il est aussi inculpé pour fraude et abus de confiance, jusqu'à 3 ans de prison encourus. Dans deux autres affaires, le dossier 2000, où il est suspecté d'avoir négocié un accord avec le propriétaire du quotidien payant Yediot Aharonot, en échange là encore d'articles complaisants, il aurait modifié la loi pour affaiblir un concurrent gratuit du journal. Et puis le dossier 1000, Netanyahou et sa femme auraient reçu des cadeaux d'un Israélien producteur à Hollywood et d'un milliardaire australien, notamment du champagne et des cigares.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le Premier ministre, Frédéric? Ça menace son avenir politique?
Alors, Benjamin Netanyahou, doit réagir après l'allocution du procureur, l'allocution du procureur. Il a toujours dit, Bibi Netanyahou, qu'il ne quitterait pas ses fonctions de Premier ministre, même mis en examen. Et c'est vrai que rien ne l'y oblige. Mais il reste à savoir si cela ne va pas doper ses opposants internes à droite. En fin de matinée, par exemple, un député, Gideon Saar, ancien ministre de l'Intérieur et de l'Éducation, a demandé des primaires au sein du Likoud. Il pense qu'il faut changer la direction du parti de droite et le candidat au poste de Premier ministre. Plusieurs proches de Netanyahou estiment que des primaires seraient du temps perdu et un manque de loyauté. Et en ce moment même, Aurélie, ses partisans manifestent devant sa résidence depuis le début de ses affaires il y a 4 ans. Ils dénoncent un complot de la presse, des juges et de la gauche. Netanyahou est le premier Premier ministre israélien inculpé en fonction.
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. C'était aujourd'hui le 5e jour de siège à l'Université Polytechnique de Hong Kong, devenue un bastion de contestation dans l'ancienne colonie britannique. Sur le millier de jeunes qui occupaient l'université, ils ne sont plus que quelques dizaines bloqués sur le campus cerné par la police anti-émeute. Au moins 700 jeunes ont été arrêtés ou se sont rendus, d'autres se sont échappés. Aujourd'hui, plusieurs ambulances ont pénétré dans l'enceinte de l'université. Notre envoyé spécial à Hong Kong, Dominique André, s'est rendu sur place.
Un manifestant, enveloppé dans une couverture de survie, le visage dissimulé, se rend à la police. Il marche lentement, à une cheville blessée. Il fait signe à la presse en passant. Une femme l'accompagne, peut-être est-ce un professeur de polytechnique. Plusieurs sont sur le campus pour parler aux jeunes protestataires. Plus les jours et les nuits passent, plus les parents des jeunes qui refusent de se rendre aux autorités s'inquiètent. Des mères ont les yeux rougis par les larmes et l'épuisement. Le pasteur Pang les soutient psychologiquement.
Le plus dur est que ceux qui restent sur le campus sont les plus déterminés. Ils refusent de sortir et ils refusent de communiquer avec leurs parents. C'est très compliqué. Actuellement, certains parents sont sous le coup de l'émotion. Ils ont leur cœur brisé. Je les supporte et les encourage. Nous formons un groupe pour soutenir chacun d'entre eux. C'est pour ça que nous sommes là. Si cette situation empire, nous espérons que le gouvernement encouragera les étudiants ou les jeunes à sortir du campus.
Des critiques montent contre le responsable de l'université de Polytechnique qui aurait tardé à faire venir des avocats pour discuter avec les étudiants. Dans les autres universités occupées, le dialogue entre la police et les jeunes a été rapide et le siège s'est terminé. Ce qui n'est pas le cas de Polytechnique qui s'enfonce dans une crise dramatique.
Dominique André, en début de semaine, la chef de l'exécutif hongkongaise Carrie Lam a promis que les manifestants mineurs se rendant à la police ne seraient pas poursuivis. Les majeurs, en revanche, doivent s'attendre à des poursuites. C'était en 1999. Plus d'une centaine d'États s'engageaient alors à débarrasser le monde des mines antipersonnelles. 20 ans après l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa, beaucoup reste à faire. Pour la 4e année consécutive, le nombre de victimes a encore augmenté, près de 6 900 personnes, en grande majorité des civils. Selon l'Observatoire des mines, non seulement les groupes armés continuent d'utiliser des mines antipersonnelles, mais elles deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Les explications à Genève de Jérémy Lanche.
5 pays concentrent à eux seuls la plupart des victimes de mines et de restes explosifs de guerre, dans l'ordre l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, la Birmanie et l'Ukraine. Les 3/4 du temps, il s'agit de civils. Plus de la moitié sont même des enfants. Une tendance inquiétante et qui peut s'expliquer par l'utilisation croissante d'engins explosifs improvisés. Jamais ils n'ont fait autant de victimes, alors qu'ils n'ont peut-être jamais été aussi simples à fabriquer. Lorraine Percy est l'un des experts de l'Observatoire des mines.
In countries like Syria, Libya.
En Syrie, en Libye ou en Afghanistan, on voit plein de types d'engins explosifs improvisés. Alors qu'auparavant, on avait des systèmes avec des téléphones mobiles, de l'infrarouge. On fabrique maintenant des mines avec 2 bouts de bois, du papier aluminium, une batterie et du fertilisant. C'est beaucoup plus difficile à détecter. Tous ces genres d'explosifs sont conçus pour pouvoir détruire des tanks, mais ils sont si sensibles qu'ils peuvent être déclenchés par le simple passage d'un enfant.
Au moins un État a utilisé des mines antipersonnelles l'an passé. Il s'agit de la Birmanie qui n'a pas signé le traité d'Ottawa. D'autres pays non signataires comme les États-Unis et Israël ont officiellement arrêté d'en produire. Il resterait environ 50 millions de mines stockées dans le monde, presque autant que ce qui a été détruit depuis l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa.
L'appel à la grève le 5 décembre prochain contre la réforme des retraites est de plus en plus soutenu. Le front syndical se renforce, plusieurs syndicats d'EDF appellent à rejoindre le mouvement, tout comme la CFDT cheminots. Et alors que le gouvernement pensait pouvoir compter sur l'appui de la CFDT, favorable à un régime universel par points, le secrétaire général de la Confédération, Laurent Berger, hausse le ton. Il appelle le gouvernement à sortir de l'ambiguïté sur la réforme des retraites et prévient que la CFDT s'opposerait à une réforme purement paramétrique. Laurent Berger.
Le gouvernement, il y a 18 mois maintenant, lançait une réforme systémique des retraites. Et aujourd'hui, on a l'impression, avec des déclarations des uns et des autres, dans tous les sens, parfois largement contradictoires, qu'ils voudraient en fait faire une réforme contre les régimes spéciaux et une réforme paramétrique, c'est-à-dire en demandant aux gens de travailler plus longtemps. Donc nous, on lui demande d'abord de répondre à une question. Est-ce que vous voulez une réforme paramétrique financière ? Dans ce cas, la CFDT s'y oppose. Est-ce que vous voulez une réforme systémique qui remette de la justice sociale dans le système des retraites parce que les femmes, les polypensionnés, ceux qui ont des carrières précaires, etc. seraient mieux traités. Deuxième cas, la CFDT en est, mais on portera nos revendications dans ce cadre-là. Mais si c'est qu'une réforme financière ou c'est principalement une réforme financière, c'est pas une surprise pour personne. La CFDT a toujours été contre. On le dit très fortement aujourd'hui parce que clairement on en a assez de cette cacophonie gouvernementale où on ne sait plus qui pense quoi.
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, au micro d'Annabelle Grelier. Il doit être reçu la semaine prochaine à Matignon avec les autres partenaires sociaux. Et puis, les syndicats apprécieront. La ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, juge leurs revendications très corporatistes. Elle estime qu'ils cherchent à garder leurs avantages acquis au détriment de l'universalité des droits. Ces syndicats ne veulent pas d'une réforme parce qu'ils ne veulent pas la disparition d'un régime extrêmement avantageux, explique la ministre, régime payé par nos impôts. Face à plusieurs milliers d'élus réunis porte de Versailles à Paris pour le congrès de l'Association des maires de France, Emmanuel Macron n'avait pas su convaincre mardi. Aujourd'hui, c'était au tour d'Édouard Philippe de tenter de séduire les élus. Le Premier ministre a notamment dit sa volonté de réduire la complexité administrative française. Laura Dulieu, vous qui êtes sur place, qu'avez-vous retenu de son discours et comment a-t-il été accueilli ?
Eh bien, c'était un discours que le Premier ministre a voulu résolument tourner vers les maires et le terrain en saluant, je cite, leur courage civique. Guy Plissonneau, maire d'hiver droite de la Génétouze en Vendée, a été davantage convaincu que lors du discours d'Emmanuel Macron.
Nous avons entendu parler, comparé au discours du président, de la ruralité en France. Et ça fait quand même du bien de l'entendre. On ne se comprend pas toujours et on a besoin de clarté sur le devenir de la taxe d'habitation notamment. Ils ont compris que sans les maires, ils perdaient le contact avec nos citoyens, qu'on était les premiers de cordée, comme ils disent.
Des déclarations sur la ruralité très appréciées donc et saluées également par la maire d'Hivergauche de Lafitte-Virgordane en Haute-Garonne, Karine Brun.
On voit que dans les réformes aujourd'hui qui sont proposées, on revient vers le terrain. Que ce soit au niveau de la réforme là, des structures des finances publiques ou sinon après sur tout ce qui est proposé hein, pour les élus ruraux. Je pense que là il a fait une annonce, là on l'a vu, compris entre les lignes, notamment pour les indemnités des élus, des petites communes, 200 ou moins de 500 habitants, où il y a une partie qui sera prise en charge par la dotation aux élus. Donc ça c'est vraiment un effort aussi qui est fait en faveur de la ruralité. Puis d'autres dispositions, donc oui je crois qu'on va vraiment dans le bon sens.
Alors pas de grande annonce d'Edouard Philippe qui s'est quand même voulu rassurant à propos notamment de la taxe d'habitation ou des services de l'État dans les communes. Le Premier ministre applaudit même parfois, notamment lorsqu'il aborde la question de l'atteinte aux élus locaux victimes d'attaques physiques ou de cyberharcèlement. Ça peut arriver à chaque instant, a-t-il martelé. Et car juste après son discours, un hommage a d'ailleurs été rendu au maire de Signes, tué en août dernier alors qu'il s'opposait à une décharge sauvage.
Laura Dulieu au Congrès des maires de France avec Gilles Gallinaro à la technique. Le chef de l'État, lui, est en déplacement à Amiens, sa ville natale. Il doit enchaîner 2 jours de rencontres avec un programme chargé. Il a commencé par un dialogue avec des étudiants cet après-midi après avoir été accueilli sur le parvis du nouveau pôle universitaire de la Citadelle. Reportage de Julie-Marie Lecomte.
Même dans ce pôle universitaire flambant neuf, Emmanuel Macron a très vite été rattrapé par les questions de précarité à l'université. Un collectif de doctorants vacataires, notamment, a réussi à interpeller le président.
Ils sont désormais rémunérés en dessous du SMIC. Ils attendent 7 à 8 mois pour être rémunérés malgré la circulaire qui demande la mensualisation. Mais on parle de gens qui n'ont rien à manger. Donc on leur dit, ça sera l'année prochaine que vous mangerez. Mais c'est tous les jours qu'on mange, nous.
Les efforts du service d'ordre n'y ont rien changé. Service d'ordre qui a notamment fait remballer à 2 jeunes femmes des pancartes militantes pour dénoncer la précarité. Plusieurs jeunes l'ont notamment interpellée sur le montant de leur bourse. Cette future institutrice dit qu'elle aimerait se concentrer sur ses études, mais elle est obligée de travailler à côté.
J'ai la bourse qui ne me suffit pas. Et
vous avez une bourse de quel niveau ?
Un, donc j'ai rien. Donc c'est...
Et vos parents vous aident ?
Comme ils peuvent, oui.
Mais les réponses d'Emmanuel Macron n'ont guère laissé présager qu'il annoncerait ici à Amiens un coup de pouce supplémentaire.
Suite du programme ce soir, son et lumière consacré au 800e anniversaire de la cathédrale d'Amiens et lancement des festivités d'Amiens, capitale européenne de la jeunesse 2020. Demain matin, le chef de l'État doit rencontrer les anciens salariés de Whirlpool. Certains d'entre eux ont d'ailleurs manifesté dès aujourd'hui pour dire leur déception et leur colère. Ils dénoncent le fiasco de la reprise de l'usine de sèche-linge par WN, un projet soutenu par le gouvernement et qui s'est soldé par la liquidation de cette entreprise en août dernier. En tête de cortège, Patrice Sinoquet, syndicaliste CFDT de Whirlpool. Il demande des explications au président Macron.
Il nous avait fait des promesses à l'époque et aujourd'hui on n'a rien eu. Trahi et beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Donc aujourd'hui on voulait donc rassembler les ex-Whirlpool, les ex-WN et tous les gens du bassin aminois et du bassin des Hauts-de-France qui ont perdu leur emploi. Il y a 2 ans, quand on nous a présenté ce fameux repreneur, ce repreneur qui a été présenté quand même par Emmanuel Macron, c'était l'homme qui allait sauver les Whirlpool. Au bout d'un an, tout le monde a mis la clé sous la porte et voilà, on a renvoyé 200 personnes au Pôle emploi. Alors, il faut m'expliquer comment qu'on a pu faire confiance à cette personne-là, comment que le gouvernement a pu lui déposer 4 millions d'euros sur la table.
La rédaction de France Culture poursuit son tour de France pour les municipales. Après Lyon et Rouen, nous étions à Lille ce matin et à la mi-journée. Nous restons ce soir dans la région des Hauts-de-France. Rosalie Lafarge nous emmène à Guivelde, dans le Nord, tout près de la frontière belge. Jean de Colle, le maire sans étiquette de cette ville de 4000 habitants, a choisi de ne pas se représenter aux municipales et il l'a annoncé à sa façon, Rosalie Lafarge.
Jean de Colle est un original. Alors l'annonce de son départ, il l'a faite en conseil municipal de manière originale.
Est-ce qu'il est judicieux de dire « Allez, mesdames et messieurs, j'arrête. » Ça, c'est plat de plat. Mais c'est pas mon style.
Non, lui, son style, c'est plutôt ça.
« J'ai mon adducteur qui devient gênant. Ma pauvre Colette, c'était l'opposition, hein. Ma pauvre Colette, j'ai 73 ans. Je dois faire de la chaise longue et j'ai besoin de soleil. »
L'élu fêtera ses 73 ans dans quelques jours. 73 ans dont presque 20 passés à la mairie de Guivelde, d'abord en tant que conseiller municipal, puis avec l'écharpe de maire, 3 mandats, beaucoup de réalisations et de satisfaction.
On a terminé la salle des fêtes. On a réhabilité la douane. On a fait la place Cornette, on a fait la rue Nationale. Ce qui est important, c'est que j'ai eu deux mandats où les élus avaient envie d'avoir envie. Ça, c'est Johnny, hein. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on a pu transformer Guivelle. On est devenu une commune très enviable. Et ça, c'est du bonheur.
Du bonheur avec les jeunes. Le maire offre aux moins de 16 ans les cotisations au club de foot ou pour les cours de musique. Du bonheur encore avec les moins jeunes, les personnes âgées, qu'il fait lui-même chanter tous les mercredis.
J'aime chanter.
Bonheur aussi d'avoir rejoint la communauté urbaine de Dunkerque, ce qui a beaucoup fait évoluer sa ville, dit-il. Tellement de bonheur qu'il avait prévu de rempiler Jean de Colle. Mais la perte d'un ami cet été l'a fait réfléchir.
Là, il faut que je profite de la vie. Place à la jeunesse, on se dit à un moment donné. Il faut être capable de s'arrêter avant qu'il arrive une boulette.
Mais il n'y a pas que ça. En trois mandats, il a vu sa fonction évoluer.
Elle devient difficile. Parce que les gens, entre deux haines, n'écoutent plus, ne travaillent plus, sont critiques. J'essaie toujours d'avoir le moral. Mais parfois, il y a des torpilles, des scuds, qui font mal. Quand on est maire, il faut être capable d'accepter des lettres anonymes. J'en ai reçu plus de 100. Des méchancetés. Mais bon, peu importe. On est dans une société où on critique, on a de la haine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens avaient un peu plus d'amour, avec un peu plus d'amour, notre société serait pas comme ça.
Il a bien quelques regrets, Jean de Colle. La fusion ratée avec la commune voisine, quelques projets qui ne sont pas arrivés à leur terme, pas assez de temps pour sa vie de famille, mais il en faudrait plus pour l'empêcher de chanter.
Il est où le bonheur? Il est où? Mais il est à Guivelde, bien sûr.
Jean de Colle, à Guivelde dans le Nord, un portrait de maire en chanson, signé Rosalie Lafarge. Suite du procès de Bilal Taghi, détenu radicalisé, jugé pour le premier attentat djihadiste commis en prison. Les faits remontent à 2016 dans la maison d'arrêt d'Oni, dans le Val-d'Oise. Il avait alors attaqué au couteau deux surveillants de prison, blessant l'un d'eux grièvement. Bilal Taghi a été entendu cet après-midi par la cour d'assises spéciale de Paris. Compte rendu d'audience de Florence Turme.
La présidente demande à Bilal Taghi de livrer sa version des faits. Un long silence, puis vient le récit désincarné de ce jour où il a poignardé les deux surveillants. Mais s'il reconnaît les faits, l'accusé a toujours autant de mal à expliquer ses motivations. Entre la mort récente d'un porte-parole du groupe État islamique ou celle de ses deux grands frères partis combattre en Syrie. Il pleure à chaque fois qu'on les évoque à la barre. Vous pensez que vos deux frères ont réussi leur vie, interroge l'avocat général. La question de la dissimulation, la taquilla, reste présente depuis le début de ce procès, on croit entendre un oui très faible, puis « je ne peux pas répondre à cette question », déclare Bilal Taghi avant de se rasseoir. Son propre avocat insiste à son tour, difficile d'accepter le fait qu'il soit égaré, lâche alors l'accusé, qu'il y ait de fortes chances qu'il soit en enfer. Mais ces dernières phrases ont fait aussi écho au témoignage du gardien venu lui dire hier que tout n'était pas perdu pour lui. « Je croyais qu'il y avait que des mecs comme l'abbé Pierre qui pouvaient dire des trucs pareils », reprend Bilal Taghi. « Il m'a envoyé en pleine face la merde que j'étais, le pauvre type que j'étais. Je ne suis pas là pour négocier une peine, je l'accepterai. Hier, j'ai dit que je n'espérais rien, mais lui m'a offert un espoir. En réalité, conclut-il, je me fous de ce qui m'attend. »
Et le procès doit se conclure demain. L'OMS s'inquiète de l'état de santé des détenus européens. L'accès aux soins reste difficile en Europe, constate l'Organisation mondiale de la santé. Elle souligne aussi le manque de personnel soignant et la surpopulation carcérale. Et elle appelle les pays européens à agir rapidement, Julie Pietri.
Des maladies non diagnostiquées, donc non traitées, et qui font souffrir. C'est ce que pointe l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport en soulignant les points problématiques qui mènent à ces défaillances. Le manque de soignants d'abord, qui rend difficile la prise en charge. En Géorgie, il n'y a aucun dentiste, par exemple, pour suivre les détenus. La surpopulation carcérale aussi. La France étant dans le top 3 des mauvais élèves, après la Roumanie et la Macédoine du Nord, la France qui enregistre aussi le taux de suicide en prison le plus élevé d'Europe. Ce que l'OMS préconise, c'est un état des lieux que chaque pays européen propose à ses prisonniers, des tests de dépistage de la tuberculose par exemple, des MST et hépatites aussi sur la base du volontariat, qu'un travail soit fait également sur les addictions et les troubles mentaux pour que le séjour en prison se passe mieux, mais aussi pour anticiper la sortie, éviter des frais de santé exorbitants à l'extérieur parce qu'une maladie n'a pas été prise en charge à temps, éviter aussi les suicides, les overdoses, une fois la liberté retrouvée.
Demain vendredi, le temps sera agité sur le sud-est avec de la pluie et parfois des orages. Pluie également sur la Bretagne. La chaîne des Pyrénées sera concernée l'après-midi avec ensuite de la neige au-delà de 1500 à 1800 mètres. Ailleurs, le ciel sera le plus souvent couvert. Température minimale de 1 à 6 sur la moitié nord, de 3 à 10 sur le sud. L'après-midi, il fera 6 à 10 degrés sur le Grand Est, de 10 à 14 sur le reste du pays et jusqu'à 17 le long de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.